Bonjour, ici Diane Lauzier. Voici le balado numéro 5. Aujourd'hui au programme Murmure, Blanche, la semeuse d'histoire. Un extrait de Alma de Georgette Leblanc, son premier recueil de poésie qui a été un coup de cœur dans ma vie de lectrice. Et je vous présente tout de suite notre invité qui est originaire de Saint-Boniface au Manitoba. Même s'il a été professeur, journaliste, directeur de cabinet de deux ministres fédéraux, il est très engagé dans son milieu littéraire, d'abord comme vice-président de différentes associations d'auteurs et comme auteur de trois recueils de poésie et de deux romans. Le premier, La mesure du temps, s'est mérité le prix littéraire Trillium, tout en étant finaliste au prix d'Ottawa et du journal Le Droit. Il nous présente Moi, Sam, elle, Janice, qui a été finaliste au prix Trillium et fait partie de la courte liste du prix du Livre d'Ottawa. Jean Boisjoli, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ça me fait tellement plaisir, M. Boisjoli. Je commence notre entretien en citant Albert Camus, parce qu'il y a deux citations qui apparaissent au tout début de votre roman, de Moi, Sam, elle, Janice. Un homme est plus un homme par les choses qu'il tait que par ce qu'il dit. Et il enseignait que la première démarche de l'esprit est de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Est-ce que c'est une sorte de mise en garde ou une marche à suivre pour la lecture de votre roman?
Bien, tout à fait, parce que c'est le psychiatre qui dit ça. Sam est accusé du meurtre de une, deux, peut-être trois personnes. Il est dans le bureau du psychiatre parce que par son avocate, il a plaidé la défense d'aliénation mentale. C'est-à-dire, il faut savoir, le psychiatre doit l'évaluer pour le bien du tribunal, faire un rapport au tribunal pour déterminer si Sam, au moment du crime, savait ce qu'il faisait, pouvait distinguer le bien du mal. Le jeu de Sam, évidemment, c'est peut-être de se faire déclarer aliéné pour ne pas être condamné. Alors, c'est ce que le psychiatre dit. Là. Il dit, bien là, on va regarder s'il dit la vérité, ce garçon-là. Et tout le long, c'est toute l'histoire là, qui est là-dedans. Parce que toute l'histoire se déroule dans le bureau du psychiatre.
Mais justement, parlons-en de l'histoire. C'est Sam qui parle au psychiatre. Puis qu'est-ce qui l'a amené là? Parce qu'il a été accusé du meurtre de celle qui partageait sa vie, Janice. Moi, je suis correct là. Sam et Janice sont deux jeunes qui en ont arraché, qui en arrachent, dépoqués, qui vivent une relation toxique. Ouais. Et vous nous racontez l'histoire de chacun avant qu'ils se rencontrent, ouais. Des épisodes au moment de leur vie de couple, et dans le bureau du psychiatre, qui lui se déroule au moment présent. Sam se retrouve là parce que son avocate soulève la défense de l'aliénation mentale. Ouais. Les personnages de votre histoire, bon, ils ont eu des enfances très difficiles, mais vraiment difficiles, sans connaître personne qui a un passé aussi lourd, parce que je sais que ça existe. Les auteurs nous disent, en entrevue, qu'ils vivent avec leur personnage. Est-ce que, je présume que vous avez vécu avec vos personnages?
D'une certaine façon, oui. Je vais vous dire un peu la genèse du roman, si vous permettez. C'était au mois de juin et juillet 2018, j'ai eu le bonheur d'avoir une résidence d'écriture en Bourgogne. Bon, c'est bien.
Oui.
Je suis allé dans un petit village du nom de Clamcy, dont l'industrie première a fermé. Et un jour, je prenais un café, je regardais, je marchais, et j'ai vu que les jeunes étaient désœuvrés. Alors, j'ai commencé à écrire là-dessus. Je suis revenu chez nous à Ottawa. Mais là, je n'avais pas le lien avec l'endroit. Alors, j'ai transposé ça au chemin de Montréal à Vanier, qui est un quartier plus défavorisé d'Ottawa. Le chemin de Montréal, c'est dur. Là. Et je connais très bien, je marchais, et je voyais, il y a énormément, il y a plusieurs sans-abri, là. Et c'est triste un peu comme spectacle. Alors, Sam vient de là. Ça me prenait une contrepartie, Janice, qui venait d'un autre endroit, et j'ai inventé cette commune épie, rural, parce que c'est un roman très, très, très urbain, là. C'est très urbain. Mais Janice vient d'une commune épie du nord du Manitoba. Bon, Et elle passe par Winnipeg et elle vient à Ottawa où ils ont une relation. Alors, je voulais...
Natif du Manitoba. Oui. C'est une belle façon de parler de chez vous, même si vous avez inventé une petite ville. Il reste quand même que c'est agréable de voir ça, de parler de chez soi. En quelle année que vous étiez en Bourgogne?
En 2018.
Mais mon Dieu, mais c'est très récent.
Il y a 2 ans. C'est là que j'ai commencé. J'ai eu ma première idée pour ça dans la commune de Clamcy, le petit village là. Mais ça fait 2 ans, j'avais commencé à écrire et comme je vous disais, revenu ici, je n'avais pas la même sensation. Je ne pouvais pas retrouver les... Il faut qu'on trouve. Moi, il faut que je voie, que je ressente. Peut-être que c'est pour ça que je peux parler. Dans le roman précédent aussi, il est question de... toute l'histoire se déroule sur le bord du lac Winnipeg essentiellement.
OK. Plage il faut quelque chose qui vous allume. Il faut qu'il y ait un déclic.
Absolument. Il faut que je sente les personnages. Vous dites, est-ce que je vis avec les personnages? Oui. Même que, vous savez, Sam est un garçon d'environ 22 ans de la rue. De la rue. Et effectivement, ma fille m'a dit mon langage était moins châtié, disons. les expressions, je les entendais. Et je vais vous dire une chose, par contre, je suis allé, il y a un restaurant, parce que je parle du restaurant Patty's Place, mais il est copié sur Bobby's Table sur le chemin de Montréal. Et le propriétaire, Bobby, qui est un gars francophone du chemin de Vanier, m'a dit, par après, on faisait une entrevue à la télévision, m'a dit, je me suis reconnu, il parle comme moi, ce gars-là. C'est pas exagéré. Parce que c'est dangereux de tomber dans les caricatures. Ouais. Je ne voulais pas blesser les gens. C'est pas parce qu'ils sont, ils sont pauvres. C'est pas toujours c'est pas de leur faute, là. Ça demeure des êtres humains.
Complètement.
Il faut les respecter.
Ben, d'ailleurs, dans votre façon d'écrire, c'est un récit qui est très facile, hein? C'est très, très fluide. C'est comme un film, les images sont fortes. Est-ce que vous écrivez en disant votre texte à voix haute? Est-ce que vous le testez?
Oui.
Oui, ça sent.
Celui-ci a 29 versions complètes, là. Parce que je vais vous dire ce que j'ai voulu faire de différent comparé au précédent. Le précédent est un vieux monsieur qui parle très bien, distingué, ratoureux, bon. Alors qu'ici, je voulais vraiment... Et c'est un long récit, plus à la française. Alors que celui-ci, je voulais en faire quelque chose d'un peu plus... avec plus d'action, comme vous le dites, plus un peu à l'américaine, avec des scènes qui ressemblent plus à des scènes de cinéma, dans le fond. D'ailleurs, on m'a dit que ça ressemblait à un scénario aussi. On m'a dit ça souvent. Que ça ressemble à un scénario. Bon, je lance ça comme ça, si quelqu'un est un cinéaste. Non, mais sérieusement, c'était pas dans ce but-là, mais c'est fait. Oui, j'ai voulu faire des scènes percutantes parce que l'histoire est percutante. Dans le roman précédent, c'est un vieux monsieur qui se raconte, mais ça, c'est moins percutant. Là. Alors qu'ici, il faut que ça frappe.
Oui, ça frappe. Il y a des bouts. C'est pas facile. C'est pas facile à lire parce que vraiment, vous y êtes allé dans la misère humaine. Il y a une grande détresse auprès des deux personnages. C'est vraiment pas des personnages qui ont eu une enfance facile. Puis on sent que vous avez vraiment fouillé. Vous avez pris vous êtes journaliste, ça paraît. Vous avez été professeur, ça paraît. C'est qu'il y a vraiment rien d'anodin. C'est vraiment, on comprend pourquoi vous avez gagné des prix auparavant, pourquoi vous avez été en nomination. Vous avez été de la courte liste à Ottawa en littérature. C'est vraiment un texte qui est, mon Dieu, je dirais, abouti. Ça paraît que vous avez travaillé fort. C'est vraiment complet. Puis vous me disiez, juste avant qu'on commence l'enregistrement de l'entrevue, que vous avez vraiment fait vos devoirs, si je peux dire, en lisant sur des causes qu'on connaît au Canada. Pourriez-vous en parler pour
vous écouter? Il y a les causes. Bon, oui. Parlons de la défense de l'aliénation mentale. Le caporal Lortie. Si on se souvient, il est parti de la région d'Ottawa, il était militaire avec un sac plein d'armes.
C'était dans les années 80, hein?
Oui, à peu près, il me semble, peut-être un peu avant. Oui, c'est un peu avant. Et il s'en allait à l'Assemblée nationale à Québec, c'était à l'époque du gouvernement péquiste. C'est avant ça, c'est dans les années 70. Il s'en allait là pour s'en débarrasser. il est arrivé le mauvais jour. Bon. Mais toujours est-il que son avocate a soulevé la défense d'annihilation mentale. Ça n'a pas marché parce qu'il avait exprimé, entre autres, à sa sœur, qu'il savait que ce n'était pas bien.
Et c'est ça, tout est bien.
Ouais. Il y a le docteur Turcotte, dont j'ai...
Vous avez lu le procès.
Ah oui, le dossier. Et même chose pour docteur Turcotte, c'est une autre histoire encore.
Docteur Turcotte, oui, a tué deux enfants.
Oui. Mais j'ai lu aussi beaucoup, vous savez, deux auteurs qui m'ont beaucoup marqué. Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre français, qui dit plusieurs choses, mais il dit ceci, que le trauma de jeunesse sévère peut causer des lésions, même physiques, au cerveau de l'enfant. Le bébé qui est dans le ventre de sa mère, là. C'est sérieux, là. À tel point que j'ai une petite fille qui a aujourd'hui 5 ans, et moi, j'ai une voix forte. Puis l'an dernier, je me rappelle d'avoir pas élevé la voix, mais d'avoir parlé dans ce qui me semblait normal. Ça, elle a sursauté. Alors, je me suis rendu compte, bon, c'est pas un trauma sévère, mais j'ai été influencé par ce que Cyrulnik avait dit. L'autre chose, l'autre auteur, c'est Gabor Maté, qui est un médecin de Vancouver, qui a travaillé de longues années. Il est conférencier maintenant. Et auteur. Il a écrit des livres. Maté a longtemps traité des cas dans le Downtown East Side, des gens qui ont des habitudes qui sont accrochées aux drogues sévères, des dépendances sévères. Maté dit que dans les, je pense, c'est 10 000, 12 000 personnes qu'il a eu avec lesquelles il a eu à travailler, qu'il n'a jamais vu parmi ces personnes-là qui avaient une dépendance sévère quelqu'un qui n'avait pas eu un traumatisme de jeunesse. Et c'est ça que je voulais faire ressortir dans Sam et Janice. Ils ont chacun des traumatismes de jeunesse. Ils peuvent difficilement être autrement. Et elle, c'est les drogues, entre autres. C'est la drogue. Puis lui, c'est sa dépendance affective claire. Il est clairement...
Oui, qui l'amène à, mon Dieu, à faire des choses... on n'ira pas là-dedans. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on ne veut pas trop en dire, puis on veut quand même en dire, il faut quand même faire une entrevue. J'ai aimé entendre parler du lac Meech. En fait, c'est la première fois depuis le fameux accord. Vous aviez le goût de lui redonner sa fonction initiale, c'est-à-dire celle d'être juste un lac?
Non. En fait, il y a deux choses. Premièrement, j'étais directeur de cabinet du ministre des Relations fédérales provinciales pendant Meech. Alors, je connais un peu. Mais cela dit, c'est un endroit pas loin d'Ottawa. Donc, c'était pour le récit, c'était pas loin, où il y a deux plages publiques, mais également, c'est résidentiel à l'aise, des gens qui sont bien. Donc, le personnage qui découvre le cadavre, c'est un genre ancien sous-ministre, ou c'est ce que Sam dit. Alors, fallait que je devais trouver un endroit comme ça, pas loin. Je voulais que ça soit un lac parce que, pour toutes sortes de raisons. Mais ça m'est venu spontanément.
OK. Ben, en tout cas, je trouvais ça le fun. De voyager dans la ville. J'ai habité à Ottawa sur des périodes de quelques mois là, pour le travail. Puis j'aime être à Ottawa. Puis là, de me retrouver au marché Bay, sur King Edward, où est-ce que je travaillais à la Nouvelle Scène, le CNA, Rideau. C'est vraiment agréable d'entendre parler de la belle ville d'Ottawa, de sortir, en fait, du Québec, parce que souvent quand on fait des lectures, moi en tant que francophone hors Québec, j'aime pas ça, là, j'aime pas cette appellation, mais c'est quand même comme ça qu'on nous appelle. Il faudra trouver mieux.
On dit franco-canadien, je pense, de plus en plus. On dit franco-canadien.
Franco-canadien. Ah! Bon, ben en tant que franco-canadienne, mais j'ai aimé ça, entendre une histoire qui se passe en Ontario. Je vous en ai parlé tantôt du Manitoba. Parler des régions aussi. Puis ça, ben, ça me parle parce que je viens d'une région. En fait, la majorité du monde vient d'une région. Oui. Mais c'est important.
Montréal, c'est une région. Non, mais c'est vrai. C'est une région. Toronto aussi.
Ah, c'est le fun. C'est important pour vous d'apporter cette dimension-là ou ça a juste à donner comme ça puis vous vouliez raconter votre histoire, point?
Moi je crois sincèrement qu'un roman, c'est raconter une histoire. Okay. Je pars d'Ottawa puis je m'en vais à Chipagan. Il faut que je connaisse la fin. Bon, voilà. En route. Puis là, si je décide que je vais aller voir le festival du cinéma ou du film à Montréal, ça va peut-être me retarder, puis j'ai peut-être un délai pour arriver à Chipagan, vous savez. Si je pars, là, je dis, bien là, je vais m'arrêter, puis hop, je vais peut-être à Montréal ou à Québec, je vais peut-être rater le Salon du livre de la péninsule acadienne, puis je ne voudrais pas faire ça. Mais c'est tout ce que c'est un voyage, dans le fond. Puis je voulais raconter cette histoire-là. Puis elle a évolué. Là. Je suis parti du garçon à Clamcy, les deux jeunes que j'ai vus dans ce petit bled-là en Bourgogne. Puis là, ça m'a amené, là. Ça m'a amené au meurtre, puis ça m'a amené aux parents, puis ça m'a amené à la Côte-de-Sable, qui est un quartier plus huppé, parce que je voulais voir le contraste avec Vanier. Mais ça évolue, ça. C'est un arbre vivant. Ça évolue pendant qu'on écrit.
C'est malgré vous, hein?
Oui. Moi, ça me prend un plan. Mais ensuite, le plan, lui, il part et il évolue.
OK. Il évolue. C'est vraiment fascinant. C'est vraiment fascinant, celui que d'entendre un auteur parler de la façon que ça se passe. Je sais que ça n'a pas rapport avec notre histoire, mais en même temps, vous en parlez dans le livre. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant, votre description de l'activité dans le cerveau. C'est la première fois que je pouvais lire sur ce qui se passe dans ma tête. Je vais vous lire l'extrait dont je parle. « Les images défilaient à la télé sans que je les voie vraiment. » OK, donc on est assis, puis on est un peu dans la lune, puis on voit des images défiler. C'est comme ça que j'ai comme reçu ça. Ça se défile sans que je les vois vraiment. Les paroles me coulaient d'une oreille à l'autre. Oui. Puis revenaient sur un bungee. Quand on pogne un mot et cite, puis là. Est-ce que c'est ça que vous vouliez dire par cette description? Parce que ça se passe comme ça dans... Avez-vous, c'est une recherche ou c'est vous qui avez...
Non, j'ai recherché, mais c'est sorti après. Oui, ça c'est sorti. Là où c'est vraiment une recherche, c'est plus loin lorsque Janice parle, juste avant qu'elle quitte sa commune, là, puis elle parle de son enfance. Elle est dissociée quand son père l'agressait.
Oui.
Elle se sentait à l'extérieur de son corps. Et tout ça, c'est vrai, là, j'ai dû... C'est comme ça qu'on peut se ressentir aussi, garçon.
Vous l'avez vulgarisé.
Oui.
Ah, ça, c'est d'une grande intelligence de pouvoir faire ça. En tout cas, moi, là, c'est quelques lignes-là m'ont vraiment... j'ai vraiment été impressionnée parce que vous avez réussi à vulgariser ce qui est... Je ne sais pas, vos lectures devaient être bien longues. En terminant, pour reprendre les mots, en fait, je paraphrase du psychiatre à la page 11. La vie de votre roman dépend de la justesse du ficelage de votre histoire. Là, j'ai vraiment changé des mots. Mais est-ce que c'était ça la principale embûche, la précision, quand on écrit un roman comme le vôtre sur un meurtre, on ne veut pas dévoiler, c'est pas évident à écrire. Est-ce que c'est ça le principal embûche? De ne pas vous mêler dans le ficelage.
Bon, oui, vous l'avez dit au tout début. Tout début, vous avez dit, j'ai écrit trois recueils de poésie. Et parce que je suis passé de la poésie au roman, je sens le besoin de la précision. Le mot, c'est ça la poésie, trouver le mot juste. Hein? Il n'y a pas beaucoup de mots sur une page de poésie souvent. Mais il faut trouver le mot juste, l'image juste. Alors que souvent, si on a toujours écrit, on est passé directement au roman, on aura tendance, on a moins tendance à s'arrêter. Et vous savez, d'où les 29 versions dans ce roman aussi. Parce que je voulais trouver, il y a telle chose, vous parliez de, de la sonorité. Important pour moi, la sonorité. Est-ce que ça chante? Est-ce que la phrase me chante un peu? Donc, je le lis. Donc, ça aussi, c'est la précision dans le mot. Je suis un grand fan, comme ben du monde de Leonard Cohen. Ah. Pas besoin de l'entendre chanter pour savoir que les mots chantent chez lui. Et quoi qu'avec sa voix, lui, ça fait tout, là.
Ben, en lisant votre roman, Moi, Sam, elle, Janice, c'était comme du beurre dans la poêle. Ça s'est fait tout seul. J'aime lire à voix haute. C'est comme si j'avais écrit le texte. Et ça, là, c'est tellement agréable. L'autre auteur, c'est un auteur de théâtre, ça m'a fait penser à du Michel-Marc Bouchard. À cause de la fluidité, de la facilité avec laquelle on peut dire le texte. Et aussi les émotions, on n'a pas besoin de... Tout y allait tout seul, fait que vivement, d'autres romans de Jean Boisjoli, il doit sûrement avoir quelque chose qui se passe.
Ça trotte, là. Ça trotte, j'attends là, les idées. Et puis là, ça va coaguler à un moment donné. C'est ce qui arrive, comme l'autre, là. Il est parti de Clamcy, là, de petit bled, et puis il est arrivé là. Il est arrivé à Chipagan.
Nous souhaite plein de coagulage. Merci beaucoup, M. Boisjoli.
C'est moi qui vous remercie énormément. Et mes salutations aux amis acadiens.
Maintenant, on se paye la traite. Voici un extrait de Moi, Sam L. Janis. Monsieur Boisjoli joue le rôle de Sam et je jouerai la psychiatre.
Sam, tous ces détails sont pas au dossier. Comment peux-tu être aussi spécifique?
Au début, avec moi, Janis parlait pas de ses affaires, mais à la longue, quand je l'ai peu à peu mise en confiance, c'est comme si elle avait ouvert les vannes. Janis était comme ça. Elle aimait se confier après la baise. Tu sais, il y en a qui se collent, d'autres qui soufflent deux ou trois mots doux avant de s'endormir. Janis, elle se collait, puis elle parlait. C'était le moment des grandes confidences. J'allais chercher deux verres d'eau. Janis déballait son histoire.
D'après ce que tu me dis, tu étais très attentif.
Oh, j'avais les oreilles grandes ouvertes. Je voulais rien manquer. Je lui posais des questions. Je demandais des précisions, même que des fois, Janis trouvait que je ne me mêlais pas de mes affaires. Elle me traitait de mouche à marde. Et ce n'était pas toujours pour rire. Ça a duré un temps, puis Janis s'est bouchée. Plus un mot. Sauf pour m'envoyer chier. C'était comme si, j'existais pas. J'ai trouvé ça dur, tu peux pas savoir comment. Quand Janis m'ignorait comme ça, je me sentais rempli d'un trop-plein de rien.
Tu l'as vraiment aimé, n'est-ce pas?
Je l'ai pas juste aimé, cette femme-là. J'étais fou d'elle, puis pas à peu près. Quand je te parle, je revois chacun de ses gestes. J'entends ses paroles, comme si elle était ici, dans ton bureau. J'habite son âme, son corps m'enveloppe. Des fois, ça fait terriblement mal de penser à elle, de m'imaginer ce qu'on aurait pu être ensemble. Alors oui, Doc, j'ai aimé Janis, sans doute trop, probablement mal. C'est mon premier vrai amour, ma seule vraie femme. Au début, j'osais à peine lui parler d'amour. J'utilisais ce mot du bout des lèvres, presque timidement, pour ouvrir une brèche dans le mur derrière lequel Janis s'enfermait. Ça a été beau. Ça aurait pu être parfait. En nous voyant marcher dans la rue, les gens se disaient que c'était impossible d'être plus heureux que Janis et moi. Puis, je l'ai couverte de trop d'affection. Le mot d'amour, c'est un paratonnerre. J'en mettais tellement que Janis suffoquait. Ça ne pouvait pas durer. Notre histoire d'amour, ça a été l'ébauche d'un roman qui s'arrête après 3-4 chapitres. Mes élans vers elle ont pris des allures d'été noir. À vouloir trop en faire, j'oubliais les choses essentielles. Ensuite, ça a été à mon tour de me sentir privé d'air, comme le nageur qui a de la difficulté à sortir la tête de l'eau. Je me suis mis à murmurer « Je t'aime », comme un appel au secours étouffé dans la gorge. Le sel de mer brûlait mes poumons et j'arrivais pas à respirer. Des fois, je me dis, comme pour me consoler, que dans le fond, Janis et moi, on n'était juste pas faits pour être ensemble. Mais ce qui me hante le plus, c'est cette pensée que si je l'avais moins aimé, je ne l'aurais pas poussé vers les pouilleux du chemin de Montréal. Tout ça ne serait pas arrivé. Janis jouerait de la guitare sur le stage de la librairie. Et moi, je l'écouterais en rangeant les livres sur les étagères. Sauf qu'à la fin, c'était rendu qu'on se livrait sur une surenchère pour voir qui aimerait l'autre le moins. Tu sais, Doc, une histoire d'amour, c'est toujours une question de survie entre deux personnages. Lequel des deux va se faire moins engloutir par l'autre?
ou plutôt d'adaptation, n'est-ce pas?
Oui, en tout cas, entre Janice et moi, souvent, il fallait éviter de suffoquer. C'est vrai qu'on a eu des maudits beaux moments de joie ensemble, mais cet amour éphémère est enrobé dans ma mémoire par trop de brume asphyxiante.
Sam, t'en mets pas trop sur les épaules. Si nous parlons de Janice, c'est pour que je puisse mieux comprendre, te comprendre, mieux saisir ton passé, ton cheminement. Ensuite, je devrais faire un rapport éclairé au tribunal. Rappelle-toi que les accusations ont été portées contre toi sont uniquement en rapport avec la mort violente de Carl. Personne d'autre.
La mort de Carl, mais aussi celle de mon père, comme c'était passé.
Eh bien, je me fais plaisir. Pour ce dernier balado, j'ai le goût de vous présenter un extrait du premier recueil de poésie de une de mes auteurs préférées, Alma de Georgette Leblanc. La brume à point de saison, elle apparaît comme un drap épais, la nuit comme le jour, l'hiver comme l'été. La brume, c'est point de la laine, c'est point de la neige, c'est même point un mur, c'est des milliers de petits nuages de pluie, des nuages de pixels qui dansent sans map, sans identité. C'est point la brume qui sait ce qu'elle est, puis ça l'inquiète point. Mais il y a de quoi dans sa présence? Elle nous habille, elle marque un territoire que je reconnais son pu, dans un silence qui arrivera jamais, dans un silence qui ralentit. Quand ce qu'elle arrive, c'est parce qu'il y avait trop de soleil, parce qu'il faisait trop beau, parce que les goélands sont affamés, parce qu'il y a trop de touristes à la côte, parce que le corps nu menace. Mais c'est point de sa faute. C'est même point une faute si elle arrive comme ça, sans raison, en silence. Son arrivée est plus douce que l'église. C'est point un dimanche rancunier. C'est point la conscience qui l'amène là. Elle est point motivée par une envie de guerre ni de sang. C'est sa nature qui la force. Elle avance et grouille tranquille, comme si elle était à sa place, partout. La brume s'installe ce printemps-là. 3 semaines de pluie. Le ciel épais comme des murs. La brume s'installe. Et personne de la côte ni du bois pouvait voir. Ils étions tous enterrés pour une miette. Le jour après le passage de la brume, le village voit des traces. Une skirt laissée dans un parc. Une car laissée dans un driveway. 3 bouteilles de rhum vides sur un pavé. Une femme qui voit croche, puis le village braque. De la pitcherie, des petites pitches. À la côte, il fait jamais chaud comme il fait au bois. Il y a tout le temps de brise, du vent qui vient de partout, dans les craques des vitres, du nord, du sud, dans la certitude que j'irai jamais, moi, voler avec les corbeaux. Pierrot me dit qu'il trouvera une façon de me sauver, qu'il peut voler, mais rien que la nuit, quand ce que personne ne regarde. Parce que le monde est endormi. Cette nuit-là, Pierrot arrivait tranquille. J'étais derrière la grange dans le bois, dans le mi-temps de mes rosiers et des fleurs des bois. La nuit était calme. On aurait vraiment dit que de quoi guettait depuis le premier jour qu'il m'avait parlé. Pierrot avait jamais été comme les autres du village. Les hommes du village savent rien comment prendre les brides puis décoller. Ils s'arrêtent jamais pour te watcher aller. Non, les hommes du village voulant te mener. Mais ce site, Pierrot, il me laissait tout le temps aller devant lui. Aussi folle et grande que je pouvais, il me laissait prendre les brides. Il riait à m'entendre rire et hucher au ciel. Il me laissait faire jusqu'à temps que je crus que j'étions plus homme et femme, que j'étions un autre mode de bête. C'était rare, Pierrot. C'est pour ça que cette nuit-là, douce et tendre, quand ce qui m'a regardé droite dans les yeux, qui me dit que les roses pourrions jamais sentir aussi tendre que ma peau, je le crus. C'est pour ça que quand ce que ses mains de quartz le virent ma skirt de mousse, comme s'il savait comment qu'un homme rouvre sa femme mariée, je dis point un mot. J'avais déjà perdu connaissance une miette. Je volais déjà. Parmi les corbeaux. C'était un extrait de Alma de Georgette Leblanc. Avant de vous quitter, je vais vous faire un petit tour sur le site du Salon du livre de la péninsule acadienne afin de vous parler de Murmure. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un endroit à un clic où les auteurs et autrices nous font la lecture d'un extrait de leur texte. Il y a plusieurs auteurs. Ouais, il y en a 3 fois 4, 12. 12 auteurs qui nous font un extrait de leur texte. C'est terminé pour les balados. Je remercie le Salon du livre pour l'invitation. Éric Miller à la technique, Jean-Marie Pitt-Benoît aux musiques, ici Diane Lausier à la réalisation et à l'animation. Je vous laisse avec Blanche, la semeuse d'histoire, jouée par la comédienne Joanie Thomas. Merci d'avoir été des nôtres.
On écrit peut-être pour recomposer en soi les morceaux de beauté que l'on a perdus le long de cette histoire de rêves et de chutes, de passages et de soif qu'est notre vie. On écrit peut-être pour toucher à cette furie d'éternité qui nous hante, pour retrouver la beauté des ciels que l'on habite, des mers que l'on traverse, pour retrouver les promesses d'enfance que l'on porte comme des châteaux rasés, reconstruits chaque fois, dans l'espérance que ce que l'on édifie ainsi tienne bon. Une seule fois, peut-être. Mais, on le sait, tout est voué à la saison suivante. L'hiver se dédie au printemps comme le fleuve à la mer, le bourgeon à la feuille. On ne peut retenir le vent de secouer la branche, ni empêcher l'amour d'entrer dans sa vie.